Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Ce n'est pas tous les jours que vous avez la chance de recevoir dans votre émission un prix Nobel de littérature, a fortiori de le recevoir pour un ouvrage vraiment singulier, vraiment personnel, voire intime, qui nous permet d'entrer dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. À travers ses mots, bien sûr, mais aussi à travers des dessins, les siens. Car c'est ainsi, depuis plus de 10 ans, le prix Nobel de littérature 2006, Orhan Pamuk, écrit et dessine dans ses carnets. Un étrange patchwork d'images et de lettres dans lesquelles on peut découvrir des réflexions sur les événements du moment, sur les paysages qu'il traverse, sur ses lectures, sur les gens qu'il rencontre, des notes de voyage aussi, des interrogations sur ses personnages ou sur la construction de ses ouvrages. L'écrivain stambouliote, écrivain turc le plus lu au monde, nous en dévoile aujourd'hui quelques pages. Souvenirs des montagnes au loin, les carnets dessinés d'Orhan Pamuk viennent de sortir en France chez Gallimard dans une traduction de Julien Lapeyre de Cabanne, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Orhan Pamuk.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Ce livre singulier, vous l'avez dédié à Asli, la femme qui partage votre vie, celle qui vous a dit entre autres « ne publie pas trop de choses personnelles ». Alors, en publiant ce livre, est-ce que vous avez le sentiment de lui avoir désobéi ?
I disobeyed her, but I convinced her,
oui.
And in fact,
j'ai désobéi, mais je l'ai convaincue. En fait, c'est une sorte de cadeau de mariage que je lui fais. Je lui ai dédié le livre. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans. Et nous vivons très heureux. Il y a des pages qui lui sont consacrées. Elle-même, elle me critique, elle s'occupe de moi, elle me conseille. Donc, effectivement, comme vous l'avez justement dit, il y a beaucoup de choses dans ma vie privée. Mais c'est un équilibre, ce livre. Un équilibre entre ma vie privée, la façon dont je relate ma vie quotidienne, comment je gère mes romans, comment je réfléchis à mes écrits à venir. Je parle également de mes rêves, de mes voyages, la façon dont je dessine. Et tout cela, ça va au-delà d'une chronique de ma vie. Il s'agit de mes pensées philosophiques, la peinture, l'art, les choses qui m'influencent, tout ce qui est très important pour moi. Et ici, vous avez un condensé de ce qui est important pour moi. Il y a 4000 pages qui sont condensées. Donc, il y a une espèce de petite cuillère qui a été prise dans l'océan de tout ce que j'ai produit.
Alors, on apprend en particulier que quand vous aviez 7 ans, Orhan Pamuk, que vous vouliez devenir peintre. On apprend aussi que vous étiez pointilliste. On l'apprend au détour d'une page, au détour de quelques dessins aussi. Et vous précisez que vous avez cru être peintre jusqu'à 22 ans. À 22 ans, écrivez-vous, le peintre en moi est mort. S'agissait-il d'une mort lente ou d'une mort violente ?
I chronicled all of this in my autobiographical book in Istanbul.
Tout cela, je le relate dans mon livre autobiographique, Istanbul. Et je parle à ma mère, et la dernière ligne de ce livre, c'est « Je ne serai pas peintre, je serai écrivain ». En effet, j'ai grandi dans une famille d'ingénieurs. Mon père, mon grand-père, mes oncles étaient tous des civilistes. Et moi-même, je devais devenir ingénieur. Mais d'aucuns se sont aperçus que j'avais un talent pour la peinture. Et on m'a dit, toi, tu iras à l'Université technique d'Istanbul, mais toi, tu seras architecte. Donc, je me suis remémoré Le Corbusier. Le Corbusier voulait être peintre. Et puis, il est devenu architecte pour des raisons financière, en quelque sorte. Et puis, il est devenu le plus grand architecte que l'on ait connu à l'époque. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Je n'ai pas suivi la même trajectoire que Le Corbusier. Mais néanmoins, il y avait quand même un élément dans mon cerveau, élément que j'ai décrit dans mon autobiographie. Et comme vous l'avez dit, il y a cette dichotomie. Même à l'école d'architecte, j'ai commencé à écrire mon premier roman. En réalité, la transition s'est faite assez facilement parce que je m'étais déjà préparé à la vie de l'artiste solitaire. Mais au lieu d'être peintre, j'étais à un bureau et je me suis mis à écrire. Donc pendant des années, je me suis préparé à cela. Je savais que j'allais mener une vie solitaire, de labeur, que je n'allais pas faire partie d'une équipe pour travailler, que je n'allais pas donner des ordres ou recevoir des ordres. J'allais être comme un enfant qui joue avec ses jouets seul dans sa chambre. Et ce qu'il y a de très chouette, c'est que ça a marché, ça. Ça fait quand même 47 ans que j'écris. Mais aujourd'hui, je peins aussi de temps en temps.
Oui, parce qu'en 2008, et on le raconte aussi dans le livre, vous entrez dans une boutique et vous en ressortez avec des crayons et des pinceaux, un petit peu comme un enfant justement dans sa chambre, et vous commencez à dessiner sur de petits carnets. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans cette date charnière de 2008? C'était un besoin compulsif de se remettre comme ça au dessin et à la peinture?
De
manière inintelligible, le désir de peindre a disparu en moi. Et j'ai décidé que j'allais être écrivain. Par conséquent, j'ai délibérément tué le peintre en moi. J'ai évité de penser à la peinture. C'était une déchirure quand même. Moi, je me suis arraché à la peinture. Je peignais quelques petits croquis, quelques petits dessins par-ci par-là, mais je n'avais pas d'atelier. Je n'avais pas de couleurs à ma disposition. Puis, en 2008, vous l'avez dit, je devais faire une conférence à Harvard et j'ai vu une boutique d'art graphique. Je suis entré dans ce magasin sans aucune préparation et je suis ressorti avec des crayons de couleur, des fusains, des pastels, la peinture à l'huile et puis aussi des pinceaux chinois que j'utilise beaucoup. Donc c'est un pinceau qui a deux bouts, des pinceaux japonais aussi, la gouache et de l'acrylique aussi. Donc j'avais deux sacs pleins de tout ça. L'acrylique, c'est bien parce que ça sèche vite. Et les dessins dans cet ouvrage, c'est ce que l'on appelle des matériaux mix, hybrides, si vous voulez, mélangés.
Mais si vous êtes entré dans cette boutique d'art graphique en 2008, est-ce que c'est parce que vous estimiez à ce moment-là que l'écriture ne vous suffisait plus à votre bonheur?
Now this is the question. In my high school,
in fact, secondary school, quand j'étais au collège,
professor or teacher used to say,
l'enseignant de dessin me disait que j'étais talentueux pour la peinture. Je faisais des peintures et c'est comme ça que tout le monde a découvert autour de moi que j'allais être peint. Donc tous les camarades venaient me voir et cet enseignant m'a dit, il faut peindre, mais j'avais du mal à peindre et à écrire. Et on m'a dit, non, Pamuk, tu es talentueux, mais n'écris pas sur tes peintures, parce que j'écrivais sur les peintures, moi. Il faut choisir. C'est deux choses différentes. Et parfois, je me dis que j'ai publié ce livre justement en réaction à ce que me disait cet enseignant, qui me disait qu'il ne fallait pas mélanger peinture et écriture.
Birer eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi,
yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl nerede. Şimdi yalnız resimlerde eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl nerede. Şimdi yalnız resimlerde eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi. Uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi, eski dostlar, eski dostlar.
La voix d'Anna Tsassès dans VMDN sur RFI, c'est un des morceaux que vous avez choisi, Orhan Pamuk, quand vous êtes passé chez nos confrères de la BBC pour une autre émission de radio en 2012. C'est spécifié dans vos carnets qui sortent donc chez Gallimard. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette chanson-là?
This song is the song that the characters of my novel Museum of Innocence.
Que chantent les personnages de mon livre qui vont au Bosphore, ils boivent un petit peu trop, ils reviennent, les choses sont très compliquées dans leur liaison amoureuse, la sexualité, ainsi de suite, mais ils sont tous un petit peu en état d'ébriété, ils chantent joyeusement en voiture. Et c'est une des chansons populaires les plus romantiques et très très connues dans la Turquie d'aujourd'hui.
Une chanson qui nous emmène donc sur les rives du Bosphore, c'est là que vous travaillez hein, quand vous êtes à Istanbul, Orhan Pamuk, c'est de là aussi que vous regardez par la fenêtre et vous dessinez à ce moment-là ce que vous voyez, les coupoles des mosquées, la mer, les bateaux qui passent par le détroit. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos mots, cette fois vous avez dessiné les scènes, mais comment est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos mots ce que vous voyez de votre fenêtre?
I'm located at right across behind famous Jihangir Mosque.
Je suis derrière la mosque que Suleyman a construite pour son épouse et c'était aussi en hommage de leur fils qui est décédé pendant leur mariage. Donc on est à l'entrée du Bosphore et j'ai le privilège de voir la vieille ville, Sainte-Sophie, les toits d'Istanbul, le côté asiatique et le pont sur le Bosphore. J'ai l'impression que je suis au croisement de deux civilisations. Je suis très heureux quand je regarde par la fenêtre. Je regarde l'entrée du Bosphore et puis je dessine un bateau. Et c'est à partir d'un bateau que je fais une image. Le livre commence par mes dessins de l'entrée du Bosphore et ce livre me positionne dans le monde. C'est le point de départ, si vous voulez. Je suis au bord de l'Europe et je regarde l'Asie par la fenêtre. On pourrait dire que je contemple l'histoire de l'Empire ottoman. Parfois, j'ai dit à mes amis, je suis le seul écrivain au monde qui peut, du doigt, montrer le lieu où ces romans historiques se situent. Parce que de ma fenêtre, même pas de mon balcon, de ma fenêtre, je vois le palais où se situent mes romans. J'aime bien suivre l'activité des bateaux quand je suis un peu fatigué. J'ai des amis qui me disent, mais Orhan, comment est-ce que tu peux écrire devant un tel paysage? Et je dis que ben, on s'habitue à tout, et puis c'est comme ça que j'arrive à écrire. Et je continue évidemment à dessiner ce que je vois par ma fenêtre.
Et quand vous voyez précisément un bateau, Orhan Pamuk, c'est une invitation au voyage artistique, au voyage littéraire en même temps?
Okay, boats are important for me because
oui, le bateau est toujours important dans ma vie parce que tous les étés, pendant de nombreuses années, nous allons sur l'île des Princes, à 1h30 d'Istanbul. On allait là pour la journée, et donc là, je parle de façon un peu proustienne, comme si c'était la plus belle journée de l'année. Et j'adore l'été, j'adore les bateaux, j'adore regarder les bateaux naviguer, comme les Vénitiens d'ailleurs. Moi, je m'identifie aux Vaporetto, les Vaporetti, et les Istanbuliotes suivent les bateaux. Alors, on a chacun son bateau préféré qu'on voit au loin. Et moi, j'avais un bateau qui est le Pachabache. Et d'ailleurs, il y a 3 pages doubles consacrées à ce bateau. Et ça, c'est un livre très personnel aussi que je relate, justement par le truchement des bateaux, notamment.
Et quand on continue de feuilleter vos carnets dessinés, Orhan Pamuk, on se rend compte aussi que vous sortez aussi beaucoup de votre appartement. Et vous nous expliquez d'ailleurs que quand vous voyagez, vous demandez toujours à vous asseoir à l'avant de la voiture pour mieux voir et que vous dessinez à ce moment-là. Et c'est vrai que vous avez expliqué là depuis quelques minutes sur RFI combien l'œil était important, combien le regard était important pour l'écrivain, mais aussi pour le peintre. Est-ce que l'œil, finalement, autant que la main, compte pour l'écrivain que vous êtes?
C'est
plus qu'important. La vie, c'est la vue. Moi, j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de la cécité. Parce qu'une fois qu'on est mort, on est recouvert de terre, on ne voit rien. La chose la plus importante pour moi, c'est la vue. Et j'ai très, très peur de la cécité. Moi, je profite de la vie en regardant autour de moi. Le fait d'être un peintre, ça m'a appris à être un romancier visuel. Il y a Tolstoï, Nabokov, Proust qui dépeignent les choses avec les couleurs, des détails si vifs. C'est pas simplement shakespearien avec des dialogues et du drame, mais on voit les couleurs, les nuances, un petit détail par-ci, un rayon de lumière qui arrive par-là. Ça, c'est très important pour moi. Sinon, j'ai une théorie sur le roman, c'est que le romancier a d'abord une image dans l'esprit, puis il transforme cette image en mots et puis le lecteur s'empare de ces mots et le lecteur ou la lectrice imagine. Et dans Imagine, il y a image. Et dans ce livre, j'ai fait des dessins qui sont en vue d'écrire d'autres romans. Donc je me prépare à l'écriture grâce au dessin, grâce à la peinture. J'ai un dessin de Urbino ici. Le château de Mantoue, par exemple, des choses que l'on voit au Rajasthan. Donc d'abord, je me fais l'image, j'imagine le château, et c'est là que se dérouleront les événements de mon roman que je fabrique dans ma tête.
Oui, donc le paysage comme fenêtre ouverte sur l'image, sur l'imaginaire, comme matrice de la création aussi bien picturale que littéraire. Ces paysages qui sont dans les carnets, ceux de Venise, ceux de Goa, ceux de la vallée du Nil, ceux de New York, ceux de Miami Beach aussi, Orhan Pamuk, est-ce que vous les contemplez de la même façon que vous contemplez votre paysage quotidien depuis votre fenêtre dirigée sur le Bosphore ?
Pour moi, le paysage, c'est essentiel parce que c'est de la peinture pure. La peinture est essentiellement illustrative d'abord, la Bible, hein, mais après, c'est illustratif. Il y a des textes très importants, les épopées, les choses comme ça, mais ce sont des images. Mais le paysage, les peintures de paysage dans sa forme le plus pure, ce n'est pas une illustration d'un texte. Le peintre doit faire passer un sentiment, une sensation, et ce n'est pas par les mots qu'on y arrive. Il faut créer une ambiance de peinture de telle sorte que le spectateur puisse être ému par l'intensité de la sensation, du sentiment. Et il n'y a que les images qui peuvent prodiguer cela. Mais c'est pratiquement impossible. Dans les dans les paysages de peinture chinoise, vous avez l'écrit, le poète fournit un poème. Mais en fait, moi je pense qu'à toute époque, le peintre et l'écrivain n'étaient pas des personnages très distincts l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on peut même dire que c'est toujours la même personne. En Chine, par exemple, on dessine et puis on écrit sur le dessin ou sur la peinture. Et moi, j'aime bien ces peintres qui n'écoutent pas les recommandations de mon enseignant au collège. Et on peut écrire sur une peinture. Et moi, je crois à cela et c'est ce que je fais avec joie dans cet ouvrage.
Effectivement, il y a plusieurs exemples, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais vous évoquiez il y a un instant les paysages des peintres chinois qui étaient aussi souvent des poètes. De quelle référence graphique et picturale vous vous êtes nourri, Orhan Pamuk ?
Alors, le titre de cet ouvrage, c'est « Souvenirs des montagnes au loin ». Là, on est dans la technique de peinture chinoise. Si vous lisez les manuels de peinture chinois, il y a pas mal de choses qui sont traduites, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de manuels comme ça. On donne une définition. Donc, les montagnes proches, il y a de l'eau au premier plan, puis les montagnes au loin. Comment utiliser la brosse ou le pinceau quand on fait des montagnes au loin ? J'ai voulu m'inspirer de cela. Et pour dire deux ou trois choses en même temps, moi j'aime beaucoup la peinture chinoise parce que je comprends, c'est le même état d'esprit que le mien. Deuxièmement, la sagesse au-delà des montagnes. Là, c'est un rêve que j'ai essayé de décrire par les mots et que j'essaye de dépeindre dans ce livre aussi. Et troisièmement, les montagnes dans les contes de fées constituent un obstacle. Au-delà de la montagne, on arrive au sens, le nirvana, l'amour, ainsi de suite. Il faut gravir les montagnes pour arriver là. Et moi, j'aime dessiner les montagnes.
Alors, vous parlez effectivement de peinture chinoise et puis vous rendez aussi un très vibrant hommage au peintre William Blake, peintre et poète d'ailleurs, ce qui prouve qu'effectivement, les deux ne sont pas forcément si éloignés. Pourquoi l'œuvre de William Blake, qu'elle soit littéraire ou picturale, vous touche-t-elle autant ?
William Blake is my master in the sense that
William Blake c'est mon maître. C'est William Blake qui voyait la page comme étant un ensemble holistique, pas simplement un endroit où on écrit, pas simplement l'endroit où on peint. Non, dans la page, on peut mêler l'écriture et la peinture d'après William Blake. Et ça a été crucial pour moi. William Blake refusait de faire la distinction entre peintre et poète. Il était un poète incroyable. Tiger. Burning Bright in the Forest of the Night. C'est William Blake. Et il est croyant. Moi, je suis musulman, mais pas très croyant. Et j'ai beaucoup appris de William Blake parce que William Blake concevait la page comme étant pleine de poésie et de couleurs. Et puis, il imprimait ses carnets. Et c'était un artiste hors pair.
Alors, on sent votre enthousiasme quand vous évoquez William Blake. On le sent au micro de RFI et dans vos carnets dessinés. Mais peut-être que l'enthousiasme le plus ardent dans vos carnets, c'est celui que vous éprouvez en évoquant Tolstoï. D'ailleurs, vous avez cité il y a quelques minutes au détour d'une phrase son nom. Pourquoi est-ce que Tolstoï est pour vous le plus grand des romanciers ?
Eh bien, c'est le cœur qui parle, c'est l'expérience qui ressent. Anna Karina, c'est le meilleur roman jamais écrit. Ça fait 10 ans que j'enseigne ce roman à mes étudiants à l'Université de Columbia à New York. Pourquoi c'est le meilleur roman ? Je ne sais pas, on ne peut pas expliquer, mais chaque phrase dans ce livre a du sens. Chaque phrase reflète la vie réelle. Je suis jaloux de Tolstoï, quel talent. Et il m'a tellement appris. Tolstoï, c'est un romancier visuel. Nous en avons parlé parce qu'il voit le monde par des images. Mais Tolstoï, c'est quelqu'un qui choisit le mot parfait pile au bon moment. Thank you.
La voix de Serta Berener sur RFI pour cette chanson Rüya qui signifie rêve en turc, sauf erreur de ma part. VMDN sur RFI avec le prix Nobel de littérature 2006, Orhan Pamuk, à l'occasion de la sortie en France de ses carnets dessinés baptisés Souvenirs des montagnes au loin aux éditions Gallimard. Et le rêve est vraiment au cœur de ces carnets. Orhan Pamuk, vous écrivez d'ailleurs, il faut voir et lire le paysage comme un rêve. Est-ce que cela signifie que c'est l'observation du réel, l'observation du réel qui permet de s'échapper de la réalité?
Moi, j'admire les surréalistes parce que le cœur est au cœur de leur œuvre. J'ai beaucoup de pages dans ces carnets, mais j'ai fait une sélection. Ce livre n'est pas organisé de façon chronologique. Il y a une organisation sentimentale et thématique. Et si l'on suit le fil thématique, il y a une histoire. Et c'est un récit onirique. Et je me suis auto-analysé par l'image. Mais ce livre explique d'une certaine façon les choses. Et ce rêve est lié au monde. Montagnes au loin. On en a déjà parlé des montagnes au loin. Et comme les peintres chinois et japonais, il y a des gestes très rapides faits à la brosse. Il y a au-delà des montagnes des choses que j'explique dans ce livre. Et vous voyez, il y a des petites cartes, des graphiques qui sont comme des indices. Donc j'ai fait une première sélection dans mes carnets grâce à ce fil onirique qui me suit depuis une dizaine d'années. Mais encore une fois, pour revenir aux surréalistes, les surréalistes prennent le rêve au sérieux et ils regardent le monde comme s'il s'agissait d'un rêve. Ils voient leur rêve comme s'il s'agissait du monde réel et c'est très important pour moi cette approche.
Avant de les classer, ces pages, Orhan Pamuk, il fallait les choisir, il fallait faire un choix, autrement dit, il fallait faire un tri, en garder certaines et en écarter d'autres. Comment est-ce que vous avez procédé ?
C'était difficile. J'ai été édité par les gens de chez Gallimard. Antoine Gallimard voulait participer à cela parce que moi-même, mes carnets, je ne veux pas les partager. J'ai 30 carnets. Et mon éditrice a sélectionné 500 doubles pages. On est passé ensuite à 200. Et là, on a encore choisi et sélectionner, et puis on les a alignés, toutes ces pages, pour qu'il y ait un fil narratif. Et ici et là, j'ai ajouté de nouvelles pages pour que les lecteurs comprennent bien. Et moi, j'aime beaucoup Henri David Thoreau, qui a inventé cette idée du journal intime. Et parfois, il écrit, et 5 mois plus tard, il écrit la même chose. Et moi, j'ai également profité des idées. Donc, c'est André Gide qui, dans son journal, qui a inventé le concept avant lui. Un journal, c'était intime par définition. Un journal intime, c'est une espèce d'aide-mémoire. On fait une chronique quotidienne pour ses descendants, par exemple. Mais Gide a inventé le journal intime que l'on partage. C'était une révolution dans les littérature, personne n'y a prêté attention, mais il a publié cela et tout à coup, le journal intime, c'est devenu une forme d'écriture nouvelle. On écrit de façon intime, mais dans une sphère publique. Donc, il ne faut pas tout raconter. Mais quand on commence à publier ces journaux intimes, moi j'écris encore tout, hein, mais il y a certaines choses que je ne partage pas. C'est encore une histoire d'équilibre. Il y a des choses que je garde pour plus tard. Il y aura peut-être d'autres carnets dessinés qui verront le jour.
Alors, on a beaucoup parlé des paysages, des illustrations. Je voudrais quand même qu'on parle un peu des textes aussi. Alors, vous le disiez, Orhan Pamuk, que déjà, quand vous étiez enfant, vous aimiez beaucoup que les mots, que l'écrit viennent comme ça chevaucher le texte. En français, on a traduit ça dans le livre par le mot « caviarder ». Vous aimez que le texte caviarde le dessin, que les mots viennent comme ça à l'appui du dessin. Vous préparez même, d'ailleurs, je crois, une exposition, une sorte d'anthologie de ces dessins caviardés de textes qui sont dans l'ouvrage. Ça veut dire que ces dessins-là qui forment un couple, en quelque sorte, avec vos mots, ils vous semblent plus importants, plus intéressants que les autres ?
Interesting is the right word.
Intéressant, c'est ça le mot. Je serais ravi si un conservateur de musée venait me voir pour dire « Oh, on veut une exposition comme ça. Moi, je voudrais faire une exposition uniquement avec des dessins recouverts, caviardés de mots, comme vous dites. » Il y a William Blake, par exemple. Il y a eu Magritte aussi. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Même des billets de banque, tiens, des billets de banque, c'est quoi ? C'est des dessins avec des mots dessus. Et la publicité, c'est quoi ? Des images, ce sont des œuvres d'art parfois, ce sont des peintures, des images caviardées de mots. Donc, la peinture chinoise, indienne, les miniatures médiévales, les écrits religieux, les textes religieux, les mots et les images sont mêlés. Et moi, je trouve ça formidable et je voudrais faire une exposition. Mais personne ne m'a demandé de faire une exposition comme ça. Mais il faut montrer à tout le monde la grande diversité des choses. C'est très intéressant, ces arts mêlés, les mots qui viennent caviarder et s'entrelacer avec les dessins. À Columbia, j'ai enseigné la relation entre l'histoire de la peinture et la littérature. Des sujets comme la façon dont on transforme une peinture en mots et ainsi de suite. Et les étudiants ont bien aimé. Et eux disaient, ah, je suis le cours de Orhan Pamuk sur mots et images. Il y a même d'autres artistes qui sont emparés de ça. Par exemple, il y a eu la scène qui a été reprise par un artiste avec une explication de ce qu'est la scène, vous voyez. Et alors, moi je dis, non, on ne savait pas en Allemagne qu'il y avait ça. C'était de la pression en noir et blanc. Et Goethe, c'est de lui que je parle, explique la scène avec des mots. Alors, Goethe est allé vers le sud et avec la Renaissance, ça s'est revenu en Allemagne, cette notion d'écriture sur la peinture. Mais une peinture sans texte, ça n'écrit pas, ça n'existe pas. Il y a toujours une explication, même si cette explication n'est pas verbalisée. Quand on regarde un paysage, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le phénomène ? Pourquoi c'est ci ? Pourquoi c'est ça ? Et alors qu'on pense que la peinture, c'est juste une image. Mais non, il y a toujours un texte. Tout est mêlé. Le texte, les mots viennent toujours en surimposition, en superposition par rapport à l'image.
Mais alors, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf, pour employer une expression idiomatique française, Orhan Pamuk. Qu'est-ce que chez vous, ce sont les dessins qui enfantent les mots ou les mots qui enfantent les dessins ?
Sometimes with the drawing, sometimes with the text.
Parfois c'est la poule, parfois c'est l'œuf. Réponse de Normand. Mais la plupart des dessins de ces carnets sont pleins de dessins. Quand je suis un petit peu en état d'ébriété, je ne sais pas, j'ouvre une page, je dessine un croquis, puis plus tard je fais une retouche, puis j'écris un texte. Ou alors, par moments, je suis tout à fait cérébral et je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai fait ceci, j'écris ma vie quotidienne. quotidienne et je laisse un espace sur la page pour pouvoir faire un dessin. Puis je retouche, je fais des petites touches dans les phrases, dans les mots, mais aussi dans les peintures. Aujourd'hui, ces carnets dessinés chez Gallimard me rendent tout à fait conscient de ce que je peux faire. Je n'avais pas prévu de faire ça. Aujourd'hui, je suis tout à fait motivé et je suis ravi de pouvoir envisager de faire d'autres dessins avec du texte, comme dans ce livre « Souvenirs des montagnes au loin ».
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Orhan Pamuk qui publie donc chez Gallimard ses carnets dessinés, ses carnets illustrés, traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabane. Alors je crois qu'il faut lui rendre hommage à ce traducteur parce que ça devait être pour lui un travail absolument, absolument incroyable. Comment vous avez travaillé avec lui et avec Gallimard, votre éditeur ? Parce que ce livre-là, il n'est sorti qu'en France.
Good question in the sense that this is also an Apollinaire-esque book.
C'est un livre très influencé par Apollinaire. J'écris, je change de couleur parce que j'écris à une époque différente. Même l'écriture est dans différentes couleurs. Donc, dans les marges du livre, il y a des traductions. Alors, en turc, il y a le texte. Mais où placer le texte quand il s'agit d'une traduction ? Donc, on s'est assis et avec Julien Lapeyre de Cabane, j'ai commencé à dire ça, ça va là. La couleur, c'est ça. J'ai colorié les lignes et ainsi de suite. Et Julien Lapeyre de Cabane, il est absolument brillant. Il m'a aidé. Il a collaboré. Et il m'a fait gagner du temps parce que je n'ai pas dû expliquer les choses à Gallimard, parce qu'avec Julien, les choses étaient déjà faites et les choses étaient bien disposées autour du dessin.
C'est lui qui a traduit aussi vos autres ouvrages, vos autres romans en français. C'était évident que c'était lui aussi le traducteur de ces carnets dessinés. Il n'aurait jamais pu en être autrement.
Et puis, il traduit également de l'allemand, Peter Handke. Il traduit le suédois. Je ne sais pas comment il fait. Hein. Mais en tout cas, c'est un formidable traducteur. Julien Lapeyre de Cabane.
Alors évidemment, les lecteurs qui vous connaissent bien, Orhan Pamuk, vont se jeter sur ces carnets dessinés en espérant y trouver quelques clés pour comprendre vos romans, vos personnages, pour mieux cerner votre processus d'écriture. Alors par exemple, aux pages 20-21, il y a une référence aux Nuits de la Peste, le dernier roman que vous avez publié. On découvre le dessin des enfants de Minger en train de pêcher des truites. Et vous précisez que l'idée de ces enfants pêcheurs vous est venue, alors là pour le coup, non pas d'un paysage, mais d'une photo. Vous êtes aussi photographe, Orhan Pamuk.
Not only I take photographs,
je prends des photos, oui. Mais particulièrement quand j'écris des romans historiques, Les Nuits de la Peste, ça se situe en 1901. Et l'empereur était paranoïaque, il ne quittait pas son palais, mais il demandait des photos de l'Empire ottoman. Et il y a une collection à la bibliothèque d'Istanbul. Et quand j'écrivais ce livre, j'ai regardé les photos et moi j'ai écrit mon roman. Je regardais les photos, j'écrivais. Je regardais les photos, j'écrivais. Et Abdul Hamid a la plus grande collection de photos de l'Empire ottoman. Et moi je prends des photos et je peins à partir de photos, ou j'écris à partir de photos, je prends moi-même des photos. J'ai publié deux livres de photos chez Stedel, un des meilleurs éditeurs de photos au monde peut-être.
Mais pour vous, la photo permet le même rapport au rêve que la peinture ou le dessin ?
Non, I think I don't. I am non. In photography. I am not artistic.
Je ne me considère pas comme un artiste photographe. Je préfère peindre. Je dois avouer que je suis, comment dire, chroniqueur en tant que photographe. La photo surréaliste me plaît, mais moi je prends des photos pour relater ma vie, pour pouvoir décrire des bâtiments vends des livres, sinon j'achète des livres de photos. Évidemment, on me prend parfois pour un photographe sérieux et artistique, mais mon objectif, c'est de chroniquer plutôt que d'inventer, plutôt que de créer de façon artistique grâce à la photo.
Alors, vous écrivez à la page 17 dans l'édition donc de Gallimard de ce carnet, « Rêver en écrivant à mon bureau de 8h du matin à 8h du soir ». C'est une règle, ça, Rand Pamuk, que vous vous astreignez à ce rythme d'écriture-là? C'est un rythme presque monacal?
Pendant 20 ans, j'écrivais jusqu'à 4h du matin. Et j'aime bien écrire quand le silence se fait en ville. Les idées sont plus grandes. Il n'y a pas le bruit de la circulation, on n'entend rien du tout. Comme si la ville s'était endormie et que vous êtes le seul éveillé à écrire. Puis ma fille est née. J'ai commencé à l'emmener à l'école. Et là, je me levais à 5 heures. J'écrivais pendant 2 heures. J'emmenais ma fille à l'école. Et voilà, donc mon rythme a complètement changé par la naissance de ma fille.
Mais donc c'est très important pour vous d'avoir cette forme de routine d'écriture, d'avoir des repères temporels dans votre journée pour en quelque sorte canaliser votre travail d'écrivain ?
Je suis discipliné, mais étant donné que j'aime écrire, je m'oublie comme un enfant qui joue. Hein. Je ne ressens pas le fait de travailler, mais parfois, on écrit des choses qui ne fonctionnent pas. Et parfois, on a du mal avec tel ou tel chapitre. Et j'exprime cela dans ce livre. Dans ce livre, j'explique la joie de l'écriture. Mais aussi le combat. Mais au bout du compte, je suis heureux. Hein. Je ne suis pas du tout déprimé ou désespéré par l'écriture. Non, non, je suis un écrivain heureux. Moi, je suis satisfait. Je n'ai pas besoin de me discipliner. Je suis enthousiaste. J'aime écrire. Mais on me dit, monsieur Pamuk, pas un confinement, c'était un problème. Je dis, non, moi, ça fait 48 ans que je suis confiné. Aucun problème. Pour moi, ça ne change rien. Je suis confiné moi-même hein, pour devenir écrivain.
Vous venez de nous dire, Rand Pamuk, que vous écrivez un peu comme les enfants jouent à l'intérieur de leur chambre. Est-ce que pour vous, l'écriture est un jeu ?
Non. When I'm painting,
ah non, je n'ai pas dit ça. Attendez. Quand je peins, je suis très heureux. J'ai l'impression que je suis en train de chanter sous la douche. Mais quand j'écris, oui, là, je suis comme un enfant. Mais je peux être très cérébral. Hein. Et quand je peins, comme les artistes chinois, je fais des grands coups de pinceau et ainsi de suite. C'est assez physique aussi. Mais quand j'écris, je n'écris qu'avec mon cerveau, qu'avec mon intellect. D'ailleurs, c'est étonnant pour moi. En particulier, quand je suis un petit peu, quand j'ai un peu bu, je suis étonné par les gestes de ma main. C'est pas mon intellect qui fait bouger ma main quand je peins. C'est autre chose. C'est un mouvement corporel. Mais quand j'écris, tout est purement intellectuel. Et je ne suis pas aussi heureux que quand je prends ma douche et que je chante. Hein. Mais peut-être qu'à long terme, je vais le dire comme ceci. Quand je peins, je suis plus heureuse, mais je suis heureux d'être écrivain.
Et d'ailleurs, il y a aussi la métaphore du désir dans ces carnets, puisque on peut lire, je cite toujours, « Le désir de peindre est comparable au désir sexuel ».
Oui, le désir sexuel, ça vous vient comme ça. Vous avez une espèce de sentiment d'urgence sexuelle parfois. Pour moi, dessiner, c'est un sentiment d'urgence. L'écriture, c'est pas comme ça. Hein. Quand on veut être heureux, quand on est malheureux, il faut assouvir un désir. Pour moi, la peinture, c'est un retour vers l'enfance, un retour vers la jeunesse. Retour vers le rêve aussi.
Mais alors pour continuer dans la métaphore, qu'est-ce qui fait grimper votre libido de peinture ?
Le monde est sexuel en fait. D'un point de vue freudien, je dirais qu'on a un désir sexuel, mais on le transforme en autre chose aussi. On fait une projection. La libido, ça me donne de l'énergie. l'énergie, de l'énergie que je maîtrise, bien entendu. Mais la sexualité, ce n'est pas un sujet très important pour moi. Mais c'est une source d'énergie, c'est une source de motivation.
C'est
un petit peu comme la vue, c'est ça qui m'a fait avancer. Mais c'est un besoin que l'on n'assouvit pas forcément, chez moi du moins. Mais c'est une énergie qui me nourrit et dont j'ai besoin.
Ces carnets dessinés, Orhan Pamuk, vous les continuez aujourd'hui?
Yes, in fact, yes, I always.
Alors vous en avez un d'ailleurs, ah,
oui.
Avec vous.
Oui, sur un carnet jaune, là,
the
oui.
Carnets also work that they are memory books.
C'est aussi des souvenirs. J'écris les livres que je veux acheter, j'ai mon petit calendrier, des petits dessins. Là, on voit une cigarette. J'ai dit où je suis allé chez RFI avec Jean-François Cadet, j'ai déambulé dans telle rue, et puis je suis en colère contre telle ou telle personne. Tout ce qui me passe par la tête, je le couche sur le papier. Et souvent, j'ai des idées à propos d'un roman. Je traite tel sujet. Ah, tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Je note, je vais m'en resservir, parce que si on ne note pas instantanément, eh bien, les idées s'envolent, même si vous avez une mémoire d'éléphant, vous oubliez. Ensuite, je classe. Et entre autres choses, ces carnets me servent à préparer des romans futurs. Parfois, on a des idées, mais on ne les suit pas forcément, mais on les note. Et quand vous écrivez, même vous voyez quelque chose par la fenêtre, et là, ça vous donne une autre idée. Et vous voyez une publicité dans la rue, et ça vous donne une idée. Moi, j'écris, je note. Il ne me faut que 20 minutes pour relater l'expérience d'une journée. Il y a des gens qui vous disent, moi, je n'ai pas le temps d'écrire un journal. Et puis, pendant que ma femme fait son maquillage ou se pomponne le nez, moi, j'ai le temps d'écrire plein de trucs. 20 minutes pour relater l'expérience d'une journée pour moi.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire le dernier dessin que vous avez réalisé là, dans le carnet qui est avec vous dans ce studio aujourd'hui?
Okay, for example, I am now a busy bit. I had a fantasy of writing a children books or a book that purports to be children's book.
Vous voulez faire un livre pour enfants, mais sérieux, sur les oiseaux, des oiseaux qui essayent d'aller quelque part, mais il y a des problèmes. Et chaque oiseau raconte sa propre histoire. Donc j'ai commencé à dessiner des images d'oiseaux, et parce que c'est une source d'inspiration pour moi. Et voilà, je sais que je vais écrire cela. Ah oui, voilà, une double page avec du texte et trois oiseaux. Et ces images, je vais sans doute les intégrer dans le récit, où il y a trois magnifiques petits oiseaux sur une double page avec des mots. C'est très, très dense et je veux dire que c'est assez touchant.
Effectivement, demain sera décerné Orhan Pamuk le nouveau prix Nobel de littérature. Est-ce que vous inscrirez son nom dans votre carnet?
How about the new Nobel Prize for the literature? His or her name will come up soon. Will you write that down in your notebook?
I don't know. It depends on my mood at that day.
Ça dépend. Ça dépendra de mon humeur le jour de l'annonce. Mais le prix Nobel de littérature, personne maintenant va me demander si c'est l'année prochaine que je vais le recevoir ou pas. C'est une question qu'on me pose plus, moi, maintenant. Donc ah oui, je vous en prie, ne me posez pas de questions à propos d'autres gens qui vont gagner le prix Nobel de littérature. Cela dit, le prix Nobel, je suis très heureux de l'avoir reçu. Quand on me l'a décerné, et j'ai été traduit en 46 langues, maintenant je suis traduit en 64 langues, j'ai de nouveaux lecteurs, de nouvelles responsabilités, et je peux même me permettre de faire quoi? Publier des carnets dessinés maintenant.
Merci, merci infiniment Orhan Pamuk d'être passé nous voir sur RFI. Souvenir des montagnes au loin, vos carnets dessinés disponibles évidemment chez Gallimard dans une traduction de Julien Lapeyre de Cavanne. Merci encore à vous, merci beaucoup à Xavier Combes qui était à vos côtés et qui a traduit vos propos en direct pour VMDN. Une pause et l'info sur RFI. À demain avec la primo-romancière Amélie Fonlups qui nous emmène entre le Cap-Vert et l'Europe dans un roman intitulé La Passagère, paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles.